Alors donc nous, on est une maison de santé pluriprofessionnelle qui regroupons donc plusieurs corps de métiers différents. Actuellement, la plupart des cabinets autres que médicaux sont fermés, c'est-à-dire que les cabinets de kinésithérapie est fermé en dehors des urgences respiratoires et ils sont toujours appelables en fait s'il y a besoin sur demande médicale. De la même façon, le cabinet podologique est fermé, mais ils ont mis en place en fait par l'intermédiaire du Conseil de l'ordre des podos possibilité en fait de répondre aux urgences dans le cadre de patients qui sont pris en charge déjà à 100% qui ont un risque plus important au niveau infectieux des pieds. Le cabinet d'orthoptiste comme de diététicien a aussi arrêté ses consultations. Par contre, les cabinets infirmiers poursuivent leurs soins, notamment le suivi des patients à domicile, de la même façon qu'avant.
Alors, Benjamin Francard, à Cizun, c'est pareil.
À Cizun, c'est un petit peu la situation un petit peu identique. À savoir que nous, qu'on est une structure. Donc on est moins nombreux au sein des murs de la maison de santé. L'ergothérapeute, Mme Santez et l'ostéopathe ont tous les deux interrompu leur activité. Et du coup, on est deux médecins généralistes à continuer les consultations. Le cabinet infirmier, bien entendu, qui continue à tourner. Et Mme Borel, la sage-femme, qui continue son activité, mais essentiellement à domicile aussi. Elle a dû pas mal de rendez-vous, de préparation à l'accouchement.
Effectivement, je n'avais pas cité la sage-femme chez nous qui consulte aussi 2 jours par semaine et qui fait un peu comme ce que décrivait Benjamin Cizun. Elle fait par téléphone s'il y a besoin et de façon effectivement ponctuelle s'il y a besoin aussi au cabinet.
Vous restez en contact avec ces spécialistes ou pas du tout là aujourd'hui? C'est-à-dire que si vous avez un patient qui vient vous voir pour, on parlait de la podologie tout à l'heure, est-ce que dans ces cas-là, si vous prescrivez une consultation, on la repousse après le confinement, comment ça se passe?
Alors effectivement, le cabinet actuellement est fermé vraiment en dehors des urgences et les urgences podologiques ont été organisées sur le territoire pour qu'il y ait un seul cabinet qui réponde en fait à l'ensemble des demandes. Donc effectivement, là, ça c'est une organisation qui est récente, donc on peut les contacter nous parce qu'on peut les avoir régulièrement au téléphone, mais pour réalisation de soins, il faut passer par une demande du conseil de l'ordre des podologues qui organisent un petit peu après vers la structure référente actuellement.
Donc on a bien compris, au niveau de la maison de santé du Fou, comme celle de Cizun, seuls les médecins et les infirmiers sont sur place. Justement, alors comment vous êtes organisé dans ce contexte aujourd'hui à la maison de santé du Fou, et on verra également celle de Cizun, où on imagine que c'est un peu pareil, mais d'abord celle du Fou.
Donc nous, on a revu un peu tout le fonctionnement et l'organisation, notamment au niveau des salles d'attente. Actuellement, les salles d'attente sont entre guillemets fermées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui rentre en fait dans le bâtiment. Les patients se présentent à l'accueil, donc la secrétaire note qu'ils sont présents et après ils attendent en fait à l'extérieur du bâtiment, dans leur voiture ou quand il fait beau à l'extérieur. Et après, le médecin va les chercher directement en fait sur le parking et ils rentrent directement par un circuit qui est bien noté en fait pour qu'il y ait une entrée et une sortie qui soient distinctes et on rentre après directement dans le cabinet médical, ce qui veut dire qu'en fait les patients qui se présentent et qui consultent au niveau de la maison de santé ne croisent pas d'autres patients et ne sont pas du tout en contact avec de personnes qui pourraient présenter des symptômes infectieux. Ça c'est au niveau de l'organisation dans les locaux.
D'accord.
Après, au niveau des appels, il y a de la même façon qu'avant un secrétariat sur place, donc qui est là pour répondre à toutes les demandes et que ce soit de consultation, soit de rendez-vous d'informations demandées par les patients. Et après, donc s'il y a besoin de rendez-vous, on peut donner. Et sinon, effectivement, le message est transmis aux médecins qui rappellent par la suite les patients.
D'accord. Comment ça se passe à Cizun, Benjamin Francard, au niveau de l'aménagement, de la réception des patients?
Alors, de la même façon, on a toujours notre secrétaire qui est sur place une partie de la journée. Pour le standard téléphonique et pour orienter les patients. Après, on a une organisation un tout petit peu différente dans la mesure où c'est une salle d'attente dans un des couloirs qui jusqu'ici était non occupé. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on regroupe les patients par plage horaire. Donc en gros, le matin, on voit tout ce qui est consultation, on va dire non infectieux, donc oui, pas de suspicion de Covid, des gens qui viennent pour leur mal de dos, ce genre de choses. On les met en priorité le matin. Et l'après-midi, on voit tout ce qui va être suspicion de Covid et haute motivation. infectieux, donc les gens qui vont avoir de la fièvre ou des troubles digestifs, aller voir l'après-midi, et ils vont aller dans une autre salle d'attente. Les gens, quand ils viennent à l'entrée, une suspicion ou fièvre, on remet un masque systématiquement, on les invite à se avec une solution hydroalcoolique.
D'accord.
Orienté dans la salle d'attente. D'une manière systématique, notre secrétaire demande pour toutes les prises de rendez-vous, les gens tous où ils ont de la fièvre, parce qu'on s'est retrouvé au tout début parfois être un petit peu piégé, des gens qui venaient pour d'autres motifs, qui nous parlaient aussi de problèmes qui pouvaient relever du Covid.
De la même façon, on a organisé effectivement les consultations entre guillemets froides, donc c'est-à-dire sans aucun signe infectieux, et les suivis, que ce soit pour les nourrissons ou toute autre personne, essentiellement le matin et au maximum en fait, et l'après-midi plutôt aux personnes qui présentent des signes infectieux. Et dans l'absolu, en général, c'est pas les mêmes médecins, c'est-à-dire que les signes infectieux sont vus par un médecin par le même médecin pendant une demi-journée quoi.
Vous rappelez combien de médecins sont disponibles actuellement à la maison de santé du Fou?
Alors nous, on est 4 médecins donc en permanence, mais on est 3 tous les jours quoi.
Et à la maison de santé de Cizin?
Ouais, actuellement on est 2 et tous les jours on est entre 1 ou 2 sur place.
D'accord. Alors dans quel état sont les services médicaux aujourd'hui, que ce soit à Cizin ou au Fou? Vous êtes débordé? Est-ce que que représente en fait le taux de consultation pour le Covid et par rapport au regard des autres maladies? On imagine que ces autres maladies n'ont pas disparu comme par magie. Peut-être
alors,
Marion?
Ouais. Alors effectivement, il y a une évolution en fait là depuis les 15 jours où il y avait peut-être beaucoup plus d'appels au début d'organisation et notamment les personnes de savoir s'ils pouvaient ou pas aller à travailler, les personnes à risque, etc. Ces appels-là sont peut-être moins importants actuellement. Au niveau des symptômes, de la même façon, on est une région qui est peut-être encore moins touchée que d'autres régions. Donc on a quelques patients qui appellent en fait pour des symptômes qui pourraient correspondre au Covid. Mais il y a aussi tout un flux qui passe en fait directement par d'autres structures qui peuvent être le 15 actuellement pour ces symptômes-là. Et par rapport à notre fonctionnement au quotidien, effectivement, on a beaucoup, on a moins de consultations puisqu'il y en a quand même une grosse partie qu'on a gérée un petit peu par téléphone ou en ce qu'on appelle en téléconsultation. Et puis les patients en fait hésitent aussi un peu plus à appeler et n'ont pas envie de déranger en fait dans ce contexte-là. Ça c'est pour le côté surcharge de travail. Ouais. Et puis ils appréhendent aussi de venir dans les structures pour ne pas être en contact en fait potentiel avec le virus.
Benjamin, vous avez constaté aussi ce déficit de fréquentation en tout cas des patients dans les maisons de santé.
Oui, on a une activité qui est globalement divisée par deux. Pas très calme. Et en effet, je reprends ce que dit Marion, les gens émettent souvent des craintes, de la peur de croiser des patients qui seraient porteurs du Covid, ou la peur de déranger. C'est quelque chose qui revient très très fréquemment là, à chaque fois qu'on voit des gens en consultation. Et en fait, ils sont très très étonnés de voir que globalement c'est calme, qu'ils peuvent avoir des rendez-vous assez rapidement. Et je pense que c'est en décalage avec ce qu'ils vont voir aux informations dans les médias, où ils voient surtout les urgences, les services qui sont très très impactés, et ce qui est fort heureusement pas notre situation actuellement. Tellement on s'était préparé à faire face à un gros afflux de patients en Covid, donc on s'est complètement réorganisé. Cette vague-là n'est pas arrivée, tant mieux, il faut qu'on continue à être vigilant bien entendu. Et globalement, là, notre crainte, c'est plus que les gens négligent un peu leur suivi et aient peur de venir consulter pour et que finalement, on est plus de problèmes d'à côté parce qu'il va y avoir des diagnostics qui vont arriver trop tard.
Marion Guyader, c'est votre avis également, les patients ne viennent plus vous consulter?
Actuellement, effectivement, c'est ce que disait Benjamin, les consultations, donc on est beaucoup moins sollicité, et puis c'est surtout qu'on est organisé pour pouvoir répondre s'il y a un afflux en fait de demandes côté infectieux. On s'est organisé pour que, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les patients ne se croisent pas forcément, et puis on peut toujours assurer en fait le suivi des patients qui avaient un suivi déjà mis en place avant pour des nouveaux symptômes qui sont inhabituels et pour lesquels les patients auraient pris rendez-vous avant le confinement. Ça reste toujours en fait d'actualité. Il ne faut pas hésiter à appeler parce qu'on est aussi là pour répondre à toutes ces questions. Ça peut être déjà ne serait-ce que d'appeler et puis après nous on réévalue avec le patient.
Alors on parlera de ces modes justement de ces modes. On parlera tout à l'heure de ces modes de consultation qui existent. Mais je voudrais juste continuer aussi un peu sur cette relation que vous avez avec vos patients et peut-être informer les auditeurs sur quels sont justement ces suivis. Vous en parliez Benjamin tout à l'heure, ou plutôt ces manques de suivi qui vous inquiètent. On parle certains patients qui nécessiteraient justement un suivi médical, tout ça, qui ne vont plus venir. On pense aussi aux nouveau-nés, aux bébés hein, qui ont besoin et des vaccins. Quels sont justement, s'il y avait un message à faire passer aux auditeurs qui ne doivent pas négliger leur suivi médical, quelles sont les pathologies, quels sont les trucs à faire impérativement?
Je pense que c'est surtout ce qui est suivi de pathologies chroniques, type diabète, hypertension, problèmes cardiaques, respiratoires, bon, chiens chroniques, etc. Et puis les personnes âgées qui viennent régulièrement pour leur renouvellement d'ordonnance, généralement tous les 3 mois. Donc c'est vrai que là, il y a eu un dispositif qui a été mis en place pour que les pharmaciens aient la main sur le renouvellement d'ordonnance jusqu'à fin du mois de mai. Donc au début, on a incité les gens d'ailleurs à faire ça, aller directement à la pharmacie, parce qu'on avait cette crainte d'être complètement submergé par des cas de coronavirus. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que du coup, on voit beaucoup moins ces patients-là. Et ce qui, dans certains cas de figure, c'est vrai que quand les pathologies sont stables et bien stabilisées, sauter une consultation, ça ne va pas forcément avoir beaucoup d'impact. Mais sur un suivi au long cours, on sait qu'on risque de passer à côté de certaines choses, quoi.
Pouvez-vous, justement, on parlait d'ordonnances, délivrer des ordonnances via format numérique, des ordonnances imprimables
Alors, il y a deux possibilités. Effectivement, on peut... En fait, on peut faire des consultations par téléphone, c'est-à-dire réévaluer avec le patient à peu près au moment où il avait son rendez-vous de suivi habituel et on évalue un petit peu comment est-ce qu'il se sent, s'il sent en fait des signes inhabituels ou est-ce qu'il a des questions depuis le dernier renouvellement. Si c'est stable, en fait, on peut effectivement renouveler le traitement qu'on envoie directement à la pharmacie. Et dans ce cas-là, le patient en fait se présente directement à la pharmacie où l'ordonnance est reçue et puis des fois, la plupart du temps, les médicaments peuvent être déjà préparés. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a une deuxième possibilité qui est une téléconsultation, c'est-à-dire que ça peut être effectivement, il y a pas mal de plateformes qui ont été mises en place pour que on puisse, en tant que médecin, avoir des consultations sur des plateformes sécurisées pour pouvoir faire effectivement une première évaluation si les patients ne peuvent pas se déplacer ou s'il n'y a pas d'indication particulière et qu'on puisse, dans ce cas-là, envoyer aussi les ordonnances soit par le biais des plateformes ou sur messagerie ou directement à la pharmacie, encore une fois.
Comment ça se passe au niveau de ces plateformes? C'est-à-dire que c'est la secrétaire de médicale qui prend rendez-vous et fixe une heure de rendez-vous sur la plateforme. C'est vous comment ça se passe en fait à ce niveau-là?
Alors nous c'est pas le cas actuellement, c'est-à-dire qu'en gros nous les patients qui appellent, mais que ce soit pour une téléconsultation ou autre, en fait on a un message en fait qui est laissé en demandant de rappeler en fait telle personne et après on évalue déjà par téléphone s'il y a besoin de venir en consultation. D'accord. Et de faire une consultation en présentiel ici au cabinet, ou est-ce qu'on fait déjà une évaluation par téléphone, ou est-ce qu'on organise une téléconsultation, et dans ce cas-là, en fait, on peut le mettre en place soit directement à l'issue du téléphone, et puis on enchaîne sur une téléconsultation, parce que la plupart du temps, c'est des mises en place assez rapides. Mmh. On peut fixer un rendez-vous par la suite, mais c'est le médecin qui organise. Enfin, en tout cas, c'est comme ça de notre côté.
Benjamin Francaire, le système de téléconsultation, consultation par Internet à 6-1, comme au fou, mais à 6-1, c'est bien perçu, même par une population plus âgée?
C'est-à-dire que dans la mesure où, si jamais des patients âgés ou qui ne sont pas forcément à l'aise avec le principe de téléconsultation par visioconférence ne fonctionne pas, on leur propose en fait de faire une prise en charge ne serait-ce que par téléphone, ce qui est beaucoup plus simple et abordable. Oui. Et on leur fait parvenir les ordonnances via la pharmacie on improvise un petit peu, mais en fait, dans les faits, ça se déroule plutôt bien.
Je voulais savoir, au niveau justement protection, c'est bon à votre niveau, vous n'êtes pas en pénurie, vous avez assez de matériel à ce niveau-là, que ce soit à 6-1 ou au fou, Benjamin Francard.
Nous, sur 6-1, on a réussi à s'équiper, mais c'est en grande partie parce qu'on s'en est préoccupé de notre côté, ou via les réseaux, via des commandes groupées entre maisons de santé, via des entreprises locales qui nous ont apporté des masques FFP2, les mairies, des communes avoisinantes. Donc finalement, on est plutôt bien équipé maintenant pour faire face à un éventuel afflux de patients et pour nos besoins au quotidien. Maintenant, ça, c'est du système débrouille en fait.
D'accord.
Malheureusement, les dotations qu'on a eues avec l'État, clairement, juste quelques boîtes de masques chirurgicaux n'étaient clairement pas suffisantes pour pouvoir travailler dans des bonnes circonstances.
Et Marion Guyader, au fou ?
Alors nous, un peu de la même façon, on a eu effectivement la dotation qui a été donnée il y a peut-être maintenant 15 jours. On a eu un nouvel aussi apport de masques fait par la pharmacie. Après, on a eu quand même beaucoup de...
Ce que vous appelez, la dotation, c'est...
C'était la dotation gouvernementale où en gros, chaque praticien libéral avait la possibilité d'avoir 18 masques par soignant par semaine. Et cette livraison est en cours. Et effectivement, pour rebondir sur ce que disait Benjamin, nous, on a eu pas mal de dons, soit par des particuliers, soit par beaucoup d'industries agroalimentaires de notre secteur, soit par les communes, les collectivités, que ce soit les mairies ou certaines écoles, ou qui nous ont effectivement donné des masques, que ce soit des masques chirurgicaux, des masques FFP2, même FFP3, ou des tenues de protection avec blouse sur blouse Charlotte, etc. Et on a effectivement aussi fait une commande regroupant plusieurs maisons de santé.
Alors,
donc effectivement, on est, nous actuellement, plutôt bien équipés. On a aussi fait un appel par la maison de santé avec notre coordinatrice pour que les personnes qui pouvaient avoir des protections la plupart du temps de par leur profession nous les amènent et que nous après on puisse redispatcher derrière. Et donc on a effectivement pu donner des masques par exemple à la DMR, aux ambulances avec lesquelles on travaille, et parce qu'on a effectivement eu un afflux de matériel qu'on a pu après redispatcher vers les structures qui en avaient besoin.
Merci, merci Marion, merci Benjamin Francard. Pour finir, je voudrais savoir si vous pensez que nos compatriotes de Presqu'île, de Crozon, de Sizun ont-ils bien intégré les gestes barrières ?
Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que je pense que le fait de se laver les mains régulièrement, de tousser dans le coude, ça c'est des choses qui ont été intégrées au fur et à mesure et qui sont, je pense, réalisées régulièrement par tout le monde. Après, il y a les mesures de protection extérieure qui sont des fois, entre guillemets, une fausse bonne idée, parce qu'effectivement, il y a une façon de le faire et de les mettre en place et puis après de les gérer qui est des fois un petit peu comment dire, ambivalente. C'est-à-dire que si on voit en fait régulièrement maintenant des personnes qui portent des gants jetables, peuvent transmettre autant que les mains le virus, par contre avec une possibilité de les nettoyer beaucoup moins efficace. Donc effectivement, les gants jetables pour une action très ponctuelle, temporaire, c'est-à-dire je pense qu'au-delà de 15-20 minutes, je ne suis pas sûre qu'ils ont une action très très bénéfique, et c'est surtout qu'ils peuvent être porteurs aussi. Donc les gants, c'est peut-être la fausse bonne idée, parce que finalement les mains, c'est aussi facile à nettoyer, puis avec du gel hydroalcoolique ou des savons, on peut facilement en fait les nettoyer. De la même façon, les masques, en fait, c'est il faut bien prendre le temps en fait de le positionner, donc au début, en bien marquant en fait au niveau de l'arête du nez pour que le masque soit bien fixé, on le met bien derrière les oreilles, puis une fois qu'il est mis en place, ne plus du tout y toucher, donc ne pas éviter de porter ses doigts en fait et au niveau du visage. Et dans ce cadre-là, les masques peuvent être gardés pendant 4 heures d'affilée si on ne les a pas touchés.
Même constat, Benjamin Francard ?
Le dernier point que j'aurais souhaité aborder, c'est aussi de faire attention, que les gens fassent attention par rapport aux informations qui sont quand même très très anxiogènes, l'ambiance générale qui est très anxiogène, et notamment les informations, les médias en boucle qui parlent que de l'épidémie, que ce soit sur la télé, les réseaux sociaux, sur Internet, et de pas hésiter à se sortir un petit peu de tout ça, privilégier les autres activités, les loisirs, bien sûr dans le respect du confinement, et de faire attention à tout ce qui était fausses informations, rumeurs qui circulent.
De type, quel type par exemple aller... quelles sont, je sais pas, quelques informations, fausses informations qui tourneraient, que vous aviez repérées comme ça?
Alors les fausses informations, par exemple, la semaine dernière, il y a eu une fake news qui a circulé comme quoi les urgences du CHU étaient débordées d'un afflux de patients Covid.
Du CHU de Brest.
Une information qui était sourcée, soi-disant SAMU, que moi j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, et tout de suite je me suis dit, j'ai tiqué. Je me suis dit, oula, c'est pas cohérent, et puis c'est pas normalement le rôle du SAMU d'aller communiquer comme ça en faisant des chaînes de messages. Donc voilà, il faut toujours garder un esprit critique par rapport à ça, ne pas hésiter à aller vérifier les informations. Et il y a beaucoup de choses qui ont circulé comme ça. Il y a eu des histoires un peu glauques avec les histoires de patinoires qui étaient réquisitionnées pour faire des morgues. Mmh. Bon, voilà, il faut garder la tête froide, garder un esprit critique, et puis ne pas hésiter à se changer les idées le plus possible, parce que ça va être un marathon avec le confinement et puis la prise en charge sur les mois à venir. Donc il faut... se changer un petit peu les idées aussi.
Eh bien, merci à vous deux. Benjamin Franca, je rappelle que vous êtes médecin à la maison de santé de Cizun. Marion Guyader à la maison de santé du Fou, merci.
Merci.